Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes néons dans la nuit, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va mieux, je diminue un peu, j'essaie de mieux m'organiser. Vendredi dernier, j'étais à Rouen, le public était incroyable et jeudi dernier, je suis revenue dans Zoom Zoom Zen sur France Inter pour ma deuxième chronique. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, la petite sirène dans une méga bassine. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui, nous recevons l'humoriste et mentaliste Fabien Olicard, que vous pourrez venir voir avec moi le 22 novembre prochain à la salle Playel. En attendant, je vous souhaite un très bel épisode. Attention, nous n'étions pas dans le studio, il y a eu un petit souci à la SACD et exceptionnellement, on était dans un bureau, donc léger écho et petit bruit de micro. Fabien devait tenir son bras de micro, c'était sport. Mais il était si cool, ça fait vraiment plaisir quand c'est si fluide. Je suis toujours traumatisée de l'épisode qui ne sortira pas, dont je vous ai un peu parlé en intro récemment et je dois gérer au quotidien des galères. Énormément courir après certains invités qui m'annulent au dernier moment ou à l'inverse me faire harceler par des gens qui veulent venir dans le podcast. C'est vraiment trop cool quand la config est comme celle d'aujourd'hui avec Fabien Olicard, si zen, heureux d'être là et moi heureuse de le rencontrer. On a eu une longue discussion donc je ne ferai pas d'outro mais j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Bonne écoute. Alors je t'ai écrit un petit poème Fabien.
Un poème, waouh.
Cher Fabien, la première personne qui m'a parlé de toi, c'est Swann Périssé. T'as pas lu Fabien Olicard, ça va te changer la vie. Et si je n'ai pas encore eu le temps de lire tes livres sur le cerveau ni de voir ton spectacle, à Paris, tes livres sur le temps et sur la manipulation positive ont changé ma vie, bel et bien. Le dernier m'a appris à me libérer d'une éternelle culpabilité. Et le premier à m'autoriser la fameuse expression « pas le time ». Aurel San dit « tu suis la mode, on fait la mode ». Toi, tu insistes, ne soyez pas dans le vent, soyez le vent. Et ça marche sur moi. Je suis très cynique des techniques de développement personnel, mais tes conseils précis et parfois drôles ou poétiques, personnels et universels, fonctionnent sur moi. Donc, un immense merci. Aujourd'hui...
C'est trop mignon.
Et en plus, je culpabilise moins maintenant de savoir que c'est parce que tu joues peu à Paris que je t'ai raté.
Oui, ça c'est normal. Ah, on ne peut que me rater en temps normal.
Ok. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques ton métier, mentaliste, les liens avec la magie, la scène, la psychologie et comment tu as réussi à trouver des recettes pour vivre mieux. Grâce au mentalisme ? Merci Fabien.
C'est un vaste programme. Merci beaucoup. Un gros bisou à Swann, du coup, qui a du coup largué un jour mon nom dans tes oreilles.
Mais oui, un immense merci.
Que je connais depuis très très longtemps. Et moi aussi, je suis cynique du développement personnel comme
okay.
Quoi. Et du coup, les bouquins que j'écris, c'est des bouquins de mon développement personnel à moi qui s'applique à moi et qui, si t'as un truc à y piocher, vas-y.
Hey.
Tu vois, y a, et c'est pour ça, dans le livre que t'as lu, Votre temps est infini, tu regardes, tout part de mes anecdotes de vie à moi,
oui.
En mode, moi, voilà, j'ai pas de conseils à donner, mais je vivais ça, et ça me plaisait pas, j'ai fait ça, pour moi, ça a marché, en fait. J'ai toujours besoin de justifier, ça part vraiment de ce que j'ai vécu, quoi, tu
ouais.
Vois.
Ouais, c'est hyper généreux, mais justement, tu t'es jamais dit « Oh là là, j'ai trouvé toutes ces astuces, je vais être très égoïste, je vais pas donner mes secrets. »
Ah non, moi j'aurais bien aimé lire un livre comme
ouais.
Ça. Est-ce que j'ai le temps d'une anecdote vraiment pour ce livre
oh,
qui est marrant ?
Oh, je t'en
prie. Donc ça, c'est mon troisième bouquin, les deux premiers, c'est sur le cerveau. Et du coup, c'est ce qui est attendu de moi, des livres sur le cerveau. Tu vois, il y a une logique derrière ça qui est implacable. Et du coup, pour mon troisième livre, je dis à mon éditeur, moi, j'ai envie d'écrire un livre qui ne va pas marcher. Il me dit, bon, ok, tu me le pitches, alors je lui explique. Un livre sur le temps, sur le rapport au temps, tout ça. Il me dit, d'accord, bah, ça ne marchera pas, parce que tu n'es pas la bonne personne pour l'incarner. mais tu veux vraiment l'écrire ? Je fais ouais. Il me fait bon, ben, je te suis. Et puis on aura une année avec un livre qui ne marchera pas, mais qui t'aura plu et ça me fait plaisir, tu vois. Donc on fait ce bouquin, on le sort. Au bout d'un mois, zéro surprise, il ne marche pas, il n'y a pas de problème. Et donc, nous, on est déjà sur le prochain, donc on rigole de ça. Tu sais, c'est un mec avec qui je m'entends bien parce qu'on a ce même truc de on peut aussi créer pour créer et ce n'est pas bien grave, tu vois.
Trop bien.
Et on regarde, je crois, 6 mois après ou un truc comme ça, où il commence à me dire t'as vu les chiffres ? Je dis non. Je fais bah, ça monte de fou, en fait. Et il a vécu un vrai truc de bouche à oreille.
Ouais.
Et aujourd'hui, je te passe toutes les étapes, mais aujourd'hui, c'est mon livre le plus traduit dans le monde.
Wow.
Je crois qu'il est dans 18 pays. Moi, j'en reviens pas.
Mm.
Et en fait, c'est très rigolo de se dire qu'à la base, c'est deux mecs qui se sont serrés en disant « on va faire un truc qui marche pas ». Tu vois ? Et en fait, c'était le vrai truc de « ouais, on s'est juste écouté, j'ai juste écouté ce que j'avais vraiment à dire et vraiment à écrire.
Ouais. »
Et comme par hasard, dans le temps, c'est celui qui continue à me glisser des doigts et qui vient de sortir il y a 2 mois en Ukraine, en Pologne, en Chine, en machin, en bidule. Tu vois, c'est fou.
Ah, ça m'étonne pas. J'ai adoré. Et je pense que si moi, j'ai été aussi bonne cliente de ton livre sur le temps particulièrement, c'est parce que je suis fan de contenu de podcast américain où les artistes font ce que tu fais, c'est-à-dire donner exactement vraiment leurs expériences et la vérité.
Ouais, leurs recettes à eux.
Leurs recettes, mais dans des détails parfois qu'on n'ose vraiment pas aborder en France, c'est-à-dire dans des détails financiers, dans des détails de planning, dans des choses pas spécialement
c'est pas glam,
chic.
C'est...
Ouais, exactement, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de profil d'artiste. Alors autant j'imagine que toi pour la scène, il y a des choses que tu caches pour ton métier.
Très peu. En
plus. Ouais, c'est vrai.
Ouais. Mais moi, je suis hyper transparent, mais moi, j'adore ça. Tout ce qui me passionne, j'ai envie que ça fasse naître dans les yeux des autres la même passion qu'il y a chez moi, tu vois, en mode mais regarde, c'est cool, tu vois. Et donc, que ce soit un truc de planning, de thunes, dans une interview relativement récente, on était très étonnés que j'ai donné mon budget pour l'Olympia, justement. Je m'en fous de le donner, quoi, tu vois. Enfin, c'est assez connu de se dire que si tu fais l'Olympia, c'est pas pour gagner de l'argent, quoi. C'est une salle qui coûte cher, enfin, aussi. Tu vois, pour moi, on peut parler de tout. C'est hyper intéressant d'avoir tout cette backstage de tout. Et même dans mon métier, dans mon mentalisme, j'ai pas envie de bluffer les gens. Hein.
Mm-hmm.
J'ai envie qu'ils aient envie de se bluffer eux-mêmes avec leur propre cerveau en comprenant qu'ils sont capables de faire la même chose, tu vois.
Et alors, en fait, donc je rêve de t'inviter depuis très longtemps et surtout depuis aussi que je me suis révélée à moi-même des talents de mentaliste.
Alors, c'est la relève.
Je pense que c'est le fait de faire des impros avec le public.
Ouais, c'est sûr. Parce que t'es obligé de les sentir, de les analyser, d'anticiper à quel moment tu vas refaire rire pour retaper ton rythme en plus.
C'est ça. Et en fait, au départ, c'était une blague. Quand ça tombait juste, ça m'étonnait. Une fois, deux fois, où je disais au hasard le métier des gens, depuis combien de temps ils étaient en couple. C'était surtout le métier, cela dit, et sur un public parisien. Mmh. Et puis, où parfois, je me suis surprise à dire des généralités, mais à faire semblant que je les avais devinées, et à les voir émerveillées, et à me dire, ah tiens, je les ai un peu, tu vois...
Le fameux effet Barnum.
Voilà. Ouais. Donc, je me suis dit, ah tiens, est-ce que... Comment ça s'est révélé le don de mentalisme à Fabien ? Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es mis à percer à jour ou t'as tout de suite... ça s'est réveillé comme un don ou tu l'as travaillé, où tu as eu d'abord l'envie ?
Attends, j'ai mon pied de micro qui
oui,
peut pas
mieux,
se faire
là.
Mentaliser. En fait, non, mais je l'avais remonté et puis il descend.
Ah,
on vous
désolée.
Emmène dans les backstage du podcast, si vous
on
voulez.
On n'est pas dans la salle habituelle, c'est pas le matos.
Je crois que je vais mettre mon bras comme ça.
C'est très cool.
T'as vu ?
Tu ressembles un peu à Balou. Enfin, tu viens.
C'est très heureux, en tout cas. Écoute, pour répondre à ta question relativement précisément, le mentalisme, c'est pas un don, c'est pas un pouvoir, c'est pas, tu vois, c'est pas, c'est un mélange d'inné et d'acquis, mais surtout qu'on a tous. En fait, en gros, il n'y a pas de définition à ce mot-là dans le monde. Chaque mentaliste a sa définition, donc elle est vraie ou fausse, selon le regard qu'on a envie de porter dessus. Au 19e siècle, c'était plutôt ceux qui se revendiquaient voyants, médiums, ce genre. Là, on est plutôt dans un courant rationnel, dont je fais partie, où je sais que tout ce que je fais, je peux t'apprendre à le faire, tu vois. Soit tu vas apprendre à le faire par travail, soit tu vas apprendre à le faire par astuce, si ton but est de bluffer l'autre. Le mentalisme qu'on connaît le plus, c'est celui qui est issu de la branche de la magie. Donc, tu as par exemple la grande illusion, c'est une branche de la magie. Le mentalisme aussi, on va dire que c'est un courant qui est un peu plus psychologique, tu vois, où au lieu de faire un tour de cartes, on va faire un tour avec les pensées des gens, en fait. Quoi, tu vois, et c'est intéressant déjà de se dire ça, parce que j'ai beaucoup théorisé sur je théorise sur tout, c'est un problème chez moi. Mais du coup, je trouve que ça relève d'un degré d'intimité que les mentalistes doivent absolument prendre en compte. C'est pas anodin de dire, faire ou simuler qu'on va lire les pensées de quelqu'un, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
Ça veut dire que tu dois aimer l'autre au moment où tu le fais. Quand toi, tu devines le métier des gens dans ton spectacle, en impro, c'est pas hasard que tu tombes juste, parce que tu as été vraiment à l'écoute de la personne. Tu t'es vraiment intéressé, t'as pas simulé de t'intéresser, tu vois. Donc tout ça, l'étiquette mentaliste, je le mets très tard dans ma vie. Parce que c'est une étiquette, c'est un sac fourre-tout, tu y mets toutes les techniques que tu veux. Moi, j'y mets de l'illusion, de la psychologie, de l'influence, de la mémoire, bon, plein de trucs. Mais tous les sujets que je mets dans mon sac de mentaliste, c'est des trucs qui me passionnent très, 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 très tôt. Mais moi, je ne sais pas que je vais en faire un métier. C'est juste des passions, tu vois. Et le jour où je décide de monter sur scène pour faire marrer les gens, c'était ça le projet de départ.
Ouais.
Je me dis, il faut que j'amène les choses qui me passionnent. Donc, c'était tout ce genre de choses-là. Et donc, j'ai commencé à le mettre au début timidement, un petit peu, de plus en plus gros, jusqu'à aujourd'hui où j'ai des spectacles. C'est assez drôle, d'ailleurs. C'est assez drôle, d'ailleurs. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que mes spectacles durent 2 heures, celui d'aujourd'hui ou celui que je jouais juste avant, là, ces 4 dernières années. En 2 heures, il y a 4 numéros de mentalisme de bluff. C'est pas énorme, tu vois. Et pourtant, je suis persuadé que si tu fais un micro-trottoir, les gens qui sortent de la salle disent « on a vu un spectacle de mentalisme ». Tu vois, comme quoi, je suis même pas sûr que le mentaliste, c'est juste bluffer quelqu'un. Moi, je bluffe dans mes spectacles 3-4 fois, parce que ça s'y prête, parce que c'est à propos et parce que je dois quand même prouver que je sais faire et que je sais que c'est pas que des choses que je dis, tu vois. Mais ça devient pas un fondement, en fait. Et quand j'écris mes spectacles, je veux que s'il y a pas de bluff, il doit rester un show. En fait, quoi qu'il arrive. Intéressant, amusant, tout ce que tu veux, quoi, tu vois.
Plus stand-up.
Plus une espèce de vulgarisation scientifique un peu stand-upée. En gros, moi, je considère que je suis l'un des mecs du public. Sauf que les gens ont la gentillesse de me laisser parler pendant 2 heures sans me couper, tu vois. Mais j'ai envie de partager une passion, en fait. Donc, je viens discuter avec les gens, mais il y a une vraie interaction permanente aussi avec eux. Mais ouais, j'ai pas d'autre prétention que de les rendre un peu plus curieux, tu vois, en sortant. Alors oui, ils vont dire, ouais, c'est incroyable, à un moment donné, je pensais à un dessin, il l'a trouvé, c'était fou. Mais ils sauront toujours un petit peu comment j'ai fait. Et s'ils veulent aller plus loin, je leur ai donné les ressources dans le spectacle pour continuer à creuser s'ils ont envie, tu vois.
Et l'hypnose, ça t'a jamais intéressé ?
Alors, j'ai une formation en hypnothérapie. Ça vient donc de la partie de ma vie où j'avais pas encore pris l'étiquette de mentaliste, où je m'intéressais à tout, et comme je m'intéressais à tout, j'ai fait des formations sur tout, sur 1000 conneries, y compris donc l'hypnose. Alors c'était une formation d'hypnothérapie dans le but d'ouvrir un cabinet, j'ai jamais eu ce but là, hein. Je voulais juste savoir ce que c'était, comment ça se passait, faire et tout. Donc je m'en suis jamais servi sur scène, parce que moi j'ai appris ça comme un peu comme un médicament, donc j'ai pas envie de jouer avec le médicament, si tu veux. Tu vois, c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais l'hypnose peut être l'outil d'un mentaliste. Comme un hypnotiseur n'est pas forcément mentaliste, du coup, aussi maîtrise qu'un outil, tu vois.
Ouais. Mais oui, non, l'hypnose, c'est particulier. Hein. Ça peut... J'en ai vu un samedi à Caen, juste avant moi, il y avait Giorda, l'hypnotiseuse, qui était sur scène. Et elle a hypnotisé des personnes sur scène. Il y avait des trucs qui étaient plus similaire peut-être à la suggestion magique, mais quand même, il y a eu des personnes sur scène qui ont claqué des mains et qui les ont dormées. Enfin, on voyait les... Et après, c'est presque même un peu... Enfin, ça fait un peu peur, hein.
Surtout l'hypnose de spectacle, elle véhicule des craintes que tu vois pas en... Tu vois, par exemple, l'hypnose de spectacle, elle véhicule la grande question « j'y crois, j'y crois pas ».
Ouais.
Alors que moi, pour avoir fait un reportage à l'Institut Curie à Paris, au centre médical, où tu as de l'hypnosédation pour remplacer les médicaments pour des interventions légères, bon, autant te dire que le malade, il n'a pas le temps de se dire « j'y crois pas ». C'est la sédation tu vois, qui va vivre à ce moment-là. Il était d'ailleurs, soit dit en passant, génial, parce que tu te réveilles tout de suite, tu n'as pas les inconvénients de tous les produits qu'on te met dans le sang et tout ça. Quoi. Donc, en réalité, l'état d'hypnose existe, mais en hypnose de spectacle, ils ont besoin de sujets très réceptifs pour un résultat visuel, impactant, immédiat.
Ouais.
Par exemple, le côté « tu dors » en hypnose n'est pas du tout obligatoire pour faire de l'hypnose. Tu peux faire de l'hypnose conversationnelle, il y a mille manières d'en faire, tu vois. Notre manière de parler, toi, tous les deux, est relaxante pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on n'est pas en surénergie, etc. C'est une forme d'hypnose. Mais voilà, moi, l'hypnose de spectacle, si un jour j'ai une idée brillante, oui, Une idée brillante, ça veut dire pas un truc où j'ai besoin de faire faire des choses à des gens, pas pour générer le rire, tu vois. Il y a une piste, par exemple, un jour que j'ai jamais exploité, où je me disais ce serait génial de marier de l'hypnose de spectacle, mais un peu de spectacle un peu pompeux, un peu genre son en scène et tout, avec les contes qu'on connaît tous, tu vois, la mythologie des Blanche-Neige et les Sept Nains, etc., ce genre de choses. Parce que comme ça, c'est profondément ancré en nous, je serais assez curieux de voir ce qu'on pourrait générer par rapport à ça. Mais tu vois, je suis presque dans le domaine de la recherche, quoi. C'est pas forcément très divertissant au sens « ha 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 » qu'a fait théâtre, tu vois.
Alors, à qui est-ce que j'en parlais? Je vais recevoir Fabien Olicard et je lui poserai des questions sur l'hypnose. Il me disait, quand tu devines, c'est que t'es dans l'hyper-empathie. T'es d'accord avec ça?
Alors, qu'est-ce qu'on appelle deviner?
Quand tu, par exemple, le métier des gens, là d'où ils viennent, tu vois, si je dis, vous venez de Montreuil. Alors, moi, je pense que c'est surtout parce que c'est à force de voir des publics, d'analyser des façons de s'habiller et de se tenir.
C'est ça. Voilà, en fait, quand on parle de langage non-verbal, il y a souvent un fantasme de la micro-expression qui va bien. Mais le principal non-verbal, c'est la manière de s'habiller, de se tenir, de parler, les intonations, les rides provoquées par le fait si tu souris beaucoup, pas beaucoup dans ta vie, etc. Enfin, c'est tout sauf les émotions et les expressions. Et donc, c'est un mélange d'hyper-empathie. Je suis relativement d'accord avec lui, parce que tu te mets à la place de l'autre, tu t'imagines dans sa vie, tu l'imagines dans sa vie. C'est quand même incroyable de faire ça. Et aussi, tu fais un peu plus confiance à ton intuition. Ton intuition, c'est la somme de toutes les expériences que tu as eues dans ta vie. Donc, si toute ta vie, tu as eu des embrouilles avec des gens qui avaient une manière de se mouvoir et de s'habiller un peu similaire, ben c'est pour ça que parfois, tu vas rencontrer quelqu'un et tu dis « putain, je le sens pas, lui ». Mais en fait, c'est pas gratos, c'est juste déjà ton inconscient qui dit « attends, nous, on a des souvenirs en stock qu'on a reliés ensemble qui sont pas terribles, tu vois ». Et après, on revendique consciemment ou inconsciemment des choses. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années, allez, je crois 2017, j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, on aurait un peu la tête de nos prénoms. Alors tu te dis,
intéressant.
Non, pas possible, tu vois. Donc j'ai lu l'étude et j'ai fait le sondage, à l'époque on pouvait faire des sondages sur YouTube où les gens ne voyaient pas le résultat. Je mettais des photos de personnes, genre une jeune fille, trois prénoms de la même génération qui pouvaient lui aller, et bien la stat, c'était genre 75% des gens avaient bon. Et c'est pas un hasard. Moi, depuis toujours, on m'appelle Olivier. Je pense que j'ai une gueule d'Olivier, tu vois.
C'est fou.
En fait, dans le fond, il y a une explication assez rationnelle. C'est que si tu as un prénom qui est pas trop rare et pas trop commun, ça veut dire que les personnes qui connaissent ce prénom-là ont des a priori sur ce prénom et vont se comporter avec toi comme si tu correspondais à leurs a priori.
Incroyable.
Et tu vas commencer à les adopter et donc avoir aussi des manières de t'habiller, des manières d'être et aussi des rides de visage, des rides d'expression en corrélation avec ça. C'est une dinguerie, en vrai.
C'est génial. Bah oui, c'est tout ce qui nous détermine.
Ouais, c'est ça.
Et c'est extraordinaire. Et ça, si oui, là, les prénoms, j'en joue parfois pour faire une blague dont je vais révéler les ressorts. Mais si jamais dans une interaction, j'ai une personne qui me dit qu'elle s'appelle Anne-Claire ou Anne-Sophie, je vais faire une blague où je dirai « cette bonne vieille France catholique ». Et là, il y a tout de suite un rire qui est que les gens se disent « oh, elle a deviné nos origines sociales et religieuses ». Mais ce n'est pas si difficile de...
Et non, Pierre-Jean-Emmanuel, je sais que tu faisais du tennis étant petit.
Mais oui, c'est ça aussi, en fonction du prénom. C'est vrai qu'il y a des origines sociales inscrites parfois dans les prénoms, bien sûr.
Non, mais tu as beaucoup de choses avant qu'une personne... elle est vraiment échangée avec toi. Quand tu la vois, tu l'entends et que tu as son prénom, tu as quand même des pistes. Tu sais, je suis partisan du fait qu'un être humain ne rentre dans aucune case et personne ne devrait se laisser enfermer dans une case. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'on est tous stéréotypés. Alors après, à soi de vouloir s'affranchir de ça ou pas, tu vois, c'est très dur mentalement, mais c'est une réalité. Moi, mon spectacle, on me demande d'ailleurs encore, est-ce qu'on met humour, mentalisme ou vulgarisation? J'ai aimé Fabien Olicard, en fait, je m'en fous de que ça rentre pas dans tes cases habituelles. Mais néanmoins, je sais par contre que je vais véhiculer un style, un genre, etc., où tu peux me stéréotyper, te classer, toi, parmi les gens que tu connais. Tiens, Fabien est plutôt comme mon pote machin ou comme mon oncle machin, tu vois. Et c'est OK avec ça, en fait. On rentre dans des manières d'être quand même.
Ouais, c'est vrai. Ça, c'est l'expérience. Je trouve que ça, c'est un discours chouette des éditeurs. C'est quand ils te disent que c'est les lecteurs qui... en tout cas, mon éditeur, il m'avait dit, tu verras, c'est les lecteurs qui te diront de quoi ton livre parle.
Exactement. Ouais. Ben c'est vrai. Tu sais, quand j'écris mes bouquins, J'en ai fait 7. Je découvre mon livre, de quoi il parle, à mi-écriture. Donc j'écris au kilomètre pendant 30 jours, 1667 mots par jour. Et si j'ai rien à dire, je raconte ce que j'ai fait la veille. Et forcément, au bout de 30 jours, j'ai 50 000 mots. Voilà, c'est mon rituel de travail. Et donc je lis ce que j'ai écrit. Et je me dis, mais en fait, ce qui me préoccupe là, ce dont j'ai envie de parler, le fil rouge, c'est un peu ça. Et donc là, il y a un tiers du texte qui dégage, qui n'a plus de rapport, mais je peux aller un petit peu plus loin. Et donc, une fois qu'on sort le livre, je discute avec les gens qui l'ont lu, et en fait, je découvre qu'en fait, je ne parlais même pas exactement de ce que je croyais que je parlais, et c'est les gens, en fait, qui m'emmènent un peu plus loin, quoi.
Ouais, c'est pour ça que moi, ton livre sur la manipulation, ça m'a beaucoup parlé de la culpabilité. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un livre qui s'adressait beaucoup aux... pas aux gentils, mais tu sais, c'est aux gens qui n'ont pas forcément les armes pour se défendre, aux non-pervers.
Ouais, non, mais oui, absolument. Les vrais gentils.
Ouais.
Moi, je crois que je suis un vrai gentil. Donc ouais. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce bouquin.
Ouais, ouais.
Tu sais que j'ai une phrase que je dis souvent, mais c'est parce que je l'ai dit à un moment de ma vie à mes équipes quand ça commençait à se passer bien dans notre métier artistique, où je disais, t'as vu, même les gentils peuvent réussir. Tu vois, on a appuyé sur la tête de personne, on a abîmé personne, on s'est battu avec personne et c'est en train de marcher. Mais parce que je crois vraiment que la gentillesse, ça se cultive. Effectivement, ça se cultive en mettant des engrais et en désherbant la culpabilité, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça. Et puis, tu es juste, parce que c'est pas... c'est de la gentillesse, mais c'est pas une espèce de bienveillance surfaite. Parce,
non,
tu vois,
ouais,
parce que tu dis bien, ton ami a l'exemple du déménagement, de qu'est-ce qui peut... comment l'autre peut utiliser ou obtenir quelque chose de toi. Et c'est très compliqué, ça. L'endroit des limites, en fait.
Oui, la limite du libre-arbitre, comment être juste. D'ailleurs, ce qui a étonné le plus de personnes dans le livre sur la manipulation, c'est quand je disais que les vendeurs, c'est les moins manipulateurs, puisqu'on connaît leur objectif.
Oui, c'est vrai.
Donc, il y a une justesse dans l'échange. On sait déjà qu'ils veulent aboutir à une vente, tu vois. Et que là où il faut creuser, c'est dans nos relations sociales, dans notre manière de faire, notre manière de demander, notre manière de dire « Oh, tu peux pas m'aider, allez, s'il te plaît. » Non, tu fais un appel à l'émotionnel. Est-ce que c'est juste de faire ça, tu vois? Est-ce qu'on peut pas respecter le nom de l'autre comme on aimerait que notre nom soit respecté dans toutes les situations, tu vois?
Ouais, et tu donnes aussi des clés sur le fait de pas se laisser intimider. Tu parles d'un premier contrat quand tu commençais à peine le mentalisme et où tu sens que c'est mal payé et où tu te dis si je refuse, qu'est-ce qui va m'arriver?
Une pression de tu dois me répondre maintenant, quoi, tu vois? Donc on vous remet dans le contexte, c'est mes tout débuts, le téléphone sonne, c'est un producteur de la région où j'habite qui me dit voilà, c'est un contrat, alors c'est pas payé parce qu'il y aura tous mes clients, etc. Mais après, je joue le jeu, ceux qui ont été là, ils auront plein de contrats cette année, nanana, donc c'est telle date, nanana, et il parle vite, il est très convaincant, très. Ce genre, pour le coup, de stéréotype mal, tu vois, tout à fait le truc. Et il me met une pression de réponse, je peux pas ne pas répondre à ce moment-là. Et je prends mon échappatoire, je raccroche. En fait, je me dis, il me reste quoi? Je raccroche et je vais reprendre un peu le pouvoir, déjà, de ma réflexion. Qu'est-ce que j'en pense de ce qu'il me dit? Est-ce que j'ai envie de dire non parce qu'il me met mal à l'aise? Ou est-ce que j'ai envie de dire non parce que je suis en train de pressentir autre chose? Et après, je l'ai rappelé et j'ai juste dit, excuse-moi, ça a coupé. et c'est pas un pieux mensonge, c'est un mensonge par omission. Ça a vraiment coupé, sauf que c'est moi qui ai des idées de cerveau, tu vois.
C'est très malin.
Et c'est là où je lui ai dit, d'accord, ok, ta proposition est super, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me faire un contrat comme quoi tu t'engages à me prendre au moins 5 fois dans l'année qui vient? Ah ben non, je ne marche pas comme ça et tout. Ah ben je suis désolé, dans ce cas-là, je ne pourrais pas m'engager moi personnellement. Tu vois, de retrouver après la faille, donc il faut reprendre du temps pour réfléchir, il ne faut pas se laisser intimider, comme
c'est
tu
ça.
Dis, il ne faut pas se laisser mettre la pression, et en tout moment, tu peux t'en aller. J'ai parfois fui dans des toilettes, on ne peut pas te dire non, va pas faire pipi, tu vois. Donc il y a toujours moyen de s'extraire d'une situation où tu sens que tu ne maîtrises plus la pression qu'on est en train de t'imposer, et bien ça ne t'appartient pas, cette pression-là, tu la laisses à l'autre, tu te casses, tu dégages et tu prends le temps de reprendre tes esprits et d'être de nouveau rationnel mentalement et émotionnellement, quoi.
C'est ce que dit Nadia Rose, c'est sa grande expression, si le bourreau est dans la pièce, quitte la pièce.
Ouais, bah elle a pas tort. Et c'est le triangle de Cartman, hein, le bourreau, la victime, le sauveur. Il faut s'extraire en fait de ce triangle-là. Il n'y a pas un bon rôle à ce moment-là. Donc si on vient de t'imposer le fait d'être une victime, ben va-t'en en fait. Ne cherche pas à attaquer l'autre parce que tu vas devenir bourreau, tu vois. Ne cherche pas à sauver celui qui se fait attaquer parce que tu vas devenir sauveur. Il n'y a pas un de ces trois rôles qui est bon.
Mais avec ça, c'est vraiment une clé pour gagner énormément en liberté. Je sais pas si tu avais lu l'enquête de Ronan Farrow au moment, sur comment il a réussi à faire tomber Harvey Weinstein.
Ah si, oui.
Tu te souviens, oui. Ce livre et alors là, c'est vraiment de la manipulation de la part d'Harvey Weinstein, pas du tout positive, mais c'est de la manipulation pure et dure, et qui se base sur la peur, sur le fait d'obtenir suffisamment d'informations personnelles sur les gens pour pouvoir les intimider, les effrayer, entre autres par d'autres techniques de manipulation, pour avoir la
confiance. Avec des non-dits en plus, avec juste des « tu sais que je sais », quoi, tu vois.
Voilà, c'est ça. J'ai ça sur toi, et donc ça doit faire suffisamment, ça doit te faire suffisamment peur. Et c'est là-dessus que... Oh, je suis désolée, ton micro, c'est trop relou.
Non, t'inquiète, je le tiens. Ah, écoute, ça va être une conversation musclante pour moi, parce que je tiens le micro.
Je suis désolée, il faut que je grille mon matos. Est-ce que toi, t'as jamais... eu des moments de colère, des problèmes de anger management, t'as toujours su réagir froidement dans ces situations-là? Parce que moi, quand j'arrive à surmonter la peur, mais le problème, c'est prendre ce temps que parfois je prends pas, où je vais répondre trop spontanément, ou alors avoir du mal à gérer l'émotion.
Ouais. Non, prendre le temps, j'ai toujours su faire, mais parce que j'aime bien avoir toutes les données pour décider, comprendre, etc. Donc ça, c'est un trait de caractère, on va dire. Je ne l'ai pas décidé, quoi. Pour les émotions, je suis durement atteignable. Alors du coup, dans le bien comme dans le mal, je suis assez stoïque, tu vois. Donc, mais moi, j'aime ça. Je m'auto-conviens. Et par contre, du coup, quand ça perce une certaine carapace, ça peut monter très loin dans les excès émotionnels. Mais je peux le maîtriser, décider de le lâcher ou pas. De mémoire, je l'ai lâché 2-3 fois, tout à fait volontairement.
D'accord.
Et ça m'a fait un bien fou, et ça m'a, dans le but d'obtenir certains résultats. Mm-mm. Donc il y a une fois, c'est en 2015 peut-être, au Festival d'Avignon, devant le Palace. Je ne jouais pas cette année-là. C'était un producteur qui me devait de l'argent. Un producteur, je fais des guillemets avec mes doigts, tu vois. Et qui me baladait depuis 6 mois, etc. Et je lui avais dit, un jour, on se croisera, tu vois. Et donc là, je l'ai croisé devant ce truc. Je lui ai parlé, il était avec sa femme. Il m'a très mal répondu pour faire le malin. Il y avait tout le métier qui était devant. Donc, il savait très bien que moi, petit Fabien, je n'allais pas me permettre de l'esclandre. Bon, les chaises ont volé. Mais moi, je hurle, je deviens fou, quoi. Dans ma tête, j'ai ouvert la porte et j'ai fait, sortez, allez-y. Faites-vous plaisir.
Allez.
Tu vois. Et donc, j'étais payé le lendemain.
Waouh.
Et effectivement, je me suis dit, ça a peut-être joué contre moi parce que toutes les personnes qui étaient présentes, c'était des gens qui m'accueillaient parfois en date, etc. Écoute, je ne sais pas si c'est lié, mais je n'ai jamais eu un problème de règlement dans ma vie. Est-ce que je suis passé pour le fou? Tu vois. Mais ça me va. Mais tu vois, voilà, les émotions, je les gère très bien.
Ouais.
Mais j'ai une capacité, je peux décider de faire sauter la capsule, quoi.
Ouais. Et si une colère bien sentie.
Ouais, et puis à laquelle je dis et amène, si t'as des choses à évacuer qui n'ont aucun rapport, prends-les en même temps.
Ah ouais, voilà, ça jette tout.
Ouais, ouais.
Ah, c'est super. Et quand tu parles dans ton livre sur le temps de la manière dont t'étais enfant et adolescent, et toi, alors avant d'être quelqu'un de très organisé, t'étais plutôt quelqu'un d'absolument pas.
Absolument procrastinateur, l'art de remettre les choses au lendemain, mais vraiment maladif, hein. Dans mon bouquin, je dis que c'est le plus gros que la Terre ait porté, mais j'en suis pas loin, hein, franchement, quoi. Et c'est un problème parce que tu culpabilises tout le temps.
Ouais.
C'est-à-dire tout le temps où tu devrais faire le truc, tu le fais pas, tu le culpabilises. Le moment après où tu vas le faire à l'arrache, tu culpabilises. Et le moment où les gens constatent du résultat, s'ils te disent c'est pas bien, tu culpabilises. Si tu dis c'est bien, tu culpabilises parce que c'est pas mérité et que t'aurais pu faire mieux. Donc il n'y a pas un moment de ta vie où t'es pas en culpabilité de ça. Et moi, en plus, j'avais envie de tout faire, tout expérimenter, tout découvrir. Donc, c'est compliqué, hein, quand tu t'y mets jamais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas mieux que les moments où j'étais occupé pour me dire « Ah, quand j'aurai le temps, je ferai ça, ça, je rêvais ma vie, tu vois, adolescent et tout, et, ou jeune adulte. Et quand j'avais le temps, je ne faisais pas, quoi. »
Tu ne faisais pas, tu rêvais.
Tu
repoussais.
Je ne faisais rien, tu sais, les choses sans importance qui te prennent. Je suis ce genre de mec-là où plus je vais être en retard pour partir de chez moi, plus ça va être essentiel de nettoyer la petite tache qui est sur la table dont je m'en fous depuis 6 mois, tu vois. Je sais pas pourquoi, comment, j'ai pas trop creusé ça, mais une chose est sûre, c'est que je voulais pas subir ça toute ma vie. J'ai commencé à lire des bouquins qui m'apportaient rien et j'ai dit ok, il faut que je trouve des méthodes qui soient si douces et si intégrables que j'ai pas l'impression de suivre des méthodes, sinon je vais le faire 10 jours, tu vois.
Bien sûr.
Et c'est comme ça que j'ai cherché dans le deep ma manière de faire et d'agir au mieux, mais parce que la procrastination absolue. J'adorais la philo.
Ouais.
Moi, j'étais en bac scientifique. J'adorais la philo. C'était vraiment mon kiff. Je complètement planté dans mon orientation. Et donc, j'avais un bon 18 de moyenne. J'ai eu 18 au bac en philo, par exemple. Et donc, j'avais des très bonnes notes. Mais vraiment, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que je me souviens qu'on avait 15 jours pour faire un DM de philo sur un sujet qui me plaisait. Je le faisais dans la cour de récréation en 20 minutes, directement écrit, pas de brouillon, rien, et je le rendais au prof. Et j'avais des bonnes notes, mais c'était terrifiant du coup. Tu vois, parce que je me disais, mais de qui je me moque ? J'ai un prof de maths, je me souviens, j'étais très bon en maths aussi, qui a pété un cap sur moi au point de prendre mon bureau, de le tirer violemment vers la porte. Tu sentais toute la haine. Il m'avait demandé si j'avais fait le travail demandé. Je dis oui, je le fais voir. C'est ni fait ni à faire, c'est écrit sur mes genoux dans le train. Il n'y a pas de développement, il y a limite que le résultat. Et moi, sans arrogance, mais comme un con, tu sais, il dit, mais ça, vous croyez que c'est bien, hein? Et moi, je fais, le résultat est juste. Et en fait, il pète un câble parce que c'est un manque de respect aussi, tu vois ce que je veux dire, vis-à-vis de lui. À la limite, ne fais rien, excuse-toi, mais rends pas un torchon fait sur ton genou troué où on comprend rien de ce que tu as fait. Donc, c'était très dur de m'adapter à tout ça parce que ce soit les maths ou la philo, je te parle de deux matières que j'adorais. Et c'est terrible d'adorer et de ne pas prendre le temps de le faire correctement. Aujourd'hui, j'ai compris comment je fonctionne et pourquoi je ne faisais pas ça.
C'est pas un rejet de l'autorité ?
Non.
Non ?
Alors, ouais, si, alors, profondément, j'en ai un aussi. Mais la relation que j'avais avec ces deux personnes n'était pas dans le truc autoritaire. Mais j'ai besoin de comprendre pourquoi on planifie les choses. J'ai besoin de comprendre pourquoi il y a une date. J'ai besoin de comprendre la demande. J'ai besoin d'une certaine justice et justesse. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école très tôt. Hein. J'ai arrêté d'être salarié très tôt aussi, tu vois, donc en assumant toutes ces galères-là, mais j'ai besoin d'une liberté, d'une autonomie permanente, tu vois.
T'as besoin d'obéir à toi-même.
Ouais, et après, moi, je peux me mettre de la pression.
Ouais.
Donc, en fait, je peux me mettre des dates, je peux me mettre des trucs, je peux respecter tout ça, tu vois, mais il faut que ça fasse sens. C'est toujours la même règle. Si ça ne fait pas sens, ça ne fonctionnera pas sur moi, tu vois. Les choses ne peuvent pas être imbécilement commandées, tu vois ce que je veux dire ? Ni par moi, ni par les autres.
Et tes parents, ils sont comme ça ? Il y a un de tes parents qui fonctionne de la même manière ?
Je suis pas sûr.
Insolent ou...
Je suis pas sûr, non. Mais mes parents étaient pas... Mon père était autoritaire, mais il était pas strict. C'est-à-dire qu'il avait une grosse voix, mais elle faisait peur qu'à ceux qu'il connaissait pas. Ma mère avait une autorité naturelle, elle. Donc, elle a jamais... Tu vois, par exemple, la fameuse gifle, ça n'a jamais reçu une gifle, mais elle n'avait pas besoin de nous menacer pour qu'on écoute, tu vois. Mais parce que, si je me souviens bien de toute mon enfance, elle ne nous a jamais imposé des choses qui n'étaient pas justement imposées. Tu vois, tu avais toujours la compréhension de la raison, tu vois. Donc, je pense que c'est ce modèle-là d'avoir toujours compris pourquoi parfois on t'impose des choses.
Elle vous manipulait positivement.
Ouais, c'est sûr. Par exemple, moi, je séchais beaucoup les cours. Elle ne m'a jamais pris la tête avec ça.
Incroyable.
Tant que j'avais des notes qui suivaient, tu vois. Mais elle avait même une forme de drôlerie, hein,
jour.
Ouais, parce qu'un jour, je suis rentré chez moi et elle a agrafé des feuilles ensemble. Et c'était mes bulletins d'absence ou de retard, tu vois. Et je lui dis, mais tu fais quoi ? Et elle me fait, je fais un calendrier puisque j'en ai un par jour. Mais c'était plutôt marrant, tu vois. Et en plus de ça... Elle n'avait pas de crainte parce que quand je séchais les cours, elle savait où j'étais. J'étais à la maison ou à la médiathèque en train de bouquiner. Donc, il n'y avait pas ce côté en plus de « putain, il sèche les cours pour aller faire le con ailleurs », quoi, tu vois. Il n'y avait même pas de ça. Après, il y avait un deal implicite. Je sais que si à un moment donné, les notes n'avaient pas suivi, comme il y a eu lieu après une époque, là, ce serait moins évident. Tu vois ce que je veux dire. Mais
Il y avait un contrat quand même.
Il n'y avait que des contrats implicites de « tant que ça roule, je ne vais rien t'imposer ». Mais elle n'a pas eu besoin... de m'imposer des choses quand ça roulait plus pour que je sache qu'il fallait changer le comportement. Tu vois, tout ça était implicite, mais ouais, c'était assez nudge, c'était assez... Je te pousse dans la bonne direction, quoi. Je te fais voir les possibles et tu vas vite comprendre par toi-même, tu vois.
Ouais, hyper pédagogue. Elle est enseignante ?
Pas du tout, couturière.
Wow.
Et en fait, mère au foyer à partir de ma naissance.
D'accord. Mais bon, certainement très... bonne couturière de l'éducation de ses enfants.
Elle savait assembler des choses, en tout cas, tu vois.
C'est ça.
Et elle vient d'une famille de 4, où elle est l'avant-dernière, et elle a beaucoup souffert qu'on ne lui explique pas la vie.
Ah !
Tu vois ? Et du coup, avec sa petite sœur, elle a eu à cœur vraiment... Tu sais, elle m'a raconté des choses d'intimité, par exemple, de la première fois qu'elle a eu ses règles. Elle savait pas ce que c'était. Elle est allée voir sa mère, donc elle vient de la race campagne et tout. Sa mère, elle lui a donné des serviettes, elle lui a dit, ce sera comme ça tous les mois. Tu vois, c'est cette époque-là, quoi. Elle habitait dans une ferme et tout, tu vois. Donc elle s'est dit, non, ma petite sœur, je vais bien lui expliquer, lui la protéger et tout, tu vois. Donc je pense que ce qu'elle a eu avec sa petite sœur, qui résulte de son éducation à elle, ou de son manque, on va dire, elle a voulu aussi le transmettre avec ses enfants, de voilà, une transparence, une justesse, on sait pourquoi on fait les choses, on respecte quand même ce qui doit être fait. On n'a pas d'argent, mais on est poli, tu vois. Ça, c'est la grande phrase que j'ai entendue toute ma vie. Où sa fierté, c'était quand elle revenait d'aller chercher le pain en disant « Ah, ben j'ai croisé une personne, je ne te dirai pas qui c'est, qui a dit que tu disais toujours bonjour quand tu les croisais. C'est bien, il faut continuer. » Tu vois, tout ce truc-là de beaucoup de valorisation.
Tu vois,
très peu de menaces, pas de punition, parce que pas besoin, parce qu'on a toujours été valorisé quand on allait dans la bonne direction aussi.
Waouh. Et puis, sentiment aussi de vouloir faire les choses différemment. Elle, pour le coup, luttant vachement contre sa propre détermination.
Ouais, absolument. Oui, complètement. Ah oui, oui. Ah ben, elle était censée être l'inverse de qui elle est aujourd'hui. Mmh. D'ailleurs, sa grande sœur, que j'ai vue ce week-end, ma tante, ressemble très pour très à ma grand-mère, tu vois. Alors, je l'adore, elle est gentille dans le fond, derrière une carapace invivable, tu vois. Mais par contre, ça parle sec, c'est directif, c'est pas explicatif, c'est... C'est pas du tout la même manière d'être. Et du coup, c'est pas la même relation à ses enfants non plus, tu vois.
Waouh. Et donc ensuite, tu fais peu longtemps. Oui, tu travailles. Et ensuite, le spectacle, la volonté de monter sur scène, c'est environ au milieu de ta vingtaine, c'est ça? Si mes souvenirs sont bons, dans le bouquin, t'en parles.
C'est assez mal défini parce que je n'ai pas de projet professionnel. Et j'en ai toujours pas, d'ailleurs. Et je pense que ça changera pas. Donc, moi, j'arrête les cours au niveau du bac. En fait, je passe le bac. Je le rate pour une raison très simple. Je ne fais qu'une heure par matière parce que je taffe en même temps. Je me dis, oh, ça ira, je fais le calcul. Ça va aller pile poil, quoi, tu vois, en nombre de points. Donc, maths appliquées, c'est 6 heures. Moi, j'y passe une heure, tu vois. Et donc, les résultats tombent. Je crois que j'ai 9,76, un truc comme ça. Alors, des fois, ils arrondissent à 10. Dans ces cas-là, sauf que moi, j'ai un bulletin où il y a des gros tampons comment ils appelaient ça, d'avertissement pour absence tous les trimestres. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de cadeau. Donc, on me met au rattrapage. Et moi, le rattrapage, je sais que je travaille, je ne pourrais pas y aller. C'est pas grave, je n'irai pas. Parce que je sais que je ne vais pas continuer mes études de toute manière, quoi qu'il arrive. Je passe le bac vraiment pour faire plaisir à maman, entre guillemets, quoi, tu vois. Et donc, suite à ça, c'est sûrement le seul conflit que j'ai eu avec ma mère, c'est ça, parce que je lui ai dit non, mais je le passerai un jour en candidat libre.
Surtout que tu avais eu 18, donc au bac en philo, c'est ça.
Ah, c'est ça, ouais. C'était up and down sur des trucs, quoi, tu vois.
Oui, t'aurais été en L, tu l'aurais eu haut la main avec en coef 7.
Mais tu vois, j'avais par exemple de la physique appliquée, c'était coef 7, ça durait 7 heures. C'est en labo. Bon, quand tu te barres au bout d'une heure, c'est sûr que t'as deux, quoi. Tu vois, il n'y a pas de... Sauf que c'est quoi, F7,
oui,
tu
là,
vois.
C'est, pour le coup, c'est même quasi kamikaze, quoi. C'est un peu autodestructeur.
Bah, parce que je me disais, avec un 10, je m'en sors. Et puis, c'est bien, ça fait plaisir, on a le diplôme, quoi, tu vois. Mais le fait de ne pas l'avoir ne m'impacte pas, tu vois. Je le regrette aujourd'hui parce que... Bon, je le regrette de ne pas avoir le bac pour une seule raison. Parce que j'ai traîné ça sous forme de honte pendant un certain temps.
Ah ouais.
Comme c'est assez récent, c'est en termes d'années dans ma vie que je dis publiquement que j'ai pas le bac et que j'ai pas de diplôme. Avant, je disais j'ai passé un bac S. Du coup, tu sous-entends ce que tu veux avec ça, tu vois. Bah, je l'ai passé, quoi. Tu vois, mais je suis pas allé où. Donc je dis pas aux gens, ne passez pas de diplôme. Si vous entendez un truc, faites-le. Mon plus gros regret, c'est de pas l'avoir passé correctement. Ouais. Je suis stupide. J'aurais dû faire 2 heures par matière. Je l'aurais eu. C'était
l'arrogance?
Non, c'était du comme je m'en fous, comme je le fais pas pour moi, pour de vrai, hein, comme ce diplôme n'avait aucun impact dans ma vie, je le fais pour faire plaisir à ma mère, je fais le minimum. Mais j'avais trouvé un vrai taf à côté, plus j'y allais tôt, mieux c'était, donc j'avais fait au minimum du minimum, quoi, tu vois. Bon, après, ma mère, on réglera ce compte-là quelques années plus tard, quand mon premier livre a été programmé dans des facs de psycho.
Wow.
Et donc j'avoue, c'est le seul scud que j'ai envoyé à ma mère dans ma vie, où j'ai dit c'est pas mal pour un mec qui n'a pas le bac, tu vois, j'ai pas pu m'empêcher. Il y avait un peu d'ego derrière, évidemment.
Bah oui.
Mais tout ça pour revenir à ta question initiale, aucun projet professionnel. Donc je n'ai qu'un projet dans ma vie, c'est un projet de vie, c'est d'être heureux. Ça se résume à ça. Du coup, je sais, je me fais confiance, je suis pas feignant, donc je m'en sortirai toujours pour manger, tu vois, payer un loyer. Je suis prêt à assumer les conséquences de ça. J'ai eu une période de ma vie où j'ai vécu dans un camping en toile de tente à défaut de pouvoir faire mieux, tu vois. Mais j'ai aucun problème, j'étais heureux. Et j'ai même fait le constat en 2018 dans les loges de l'Olympia, où je me suis demandé si j'étais plus heureux maintenant dans cette loge ou dans la toile de tente.
Wow.
Et bien, je te jure que c'est vrai, Rosa, j'avais le même niveau de bonheur. C'est juste que je suis hyper chanceux parce que j'arrive à expérimenter toujours plus, tu vois. Donc, j'ai plus de confort, mais le bonheur intrinsèque est toujours le même, tu vois. Et ça, c'est parce que j'ai fait le travail introspectif il y a très longtemps de savoir ce qui me rendrait heureux. Donc, c'est d'être libre et autonome. C'est tout. Si tu me laisses ces deux choses, c'est sûr que je peux être heureux dans la vie. Donc, je reboucle parce que je sais où on va quand même, même si je parle beaucoup, je suis une pipelette.
Non, mais j'adore et je trouve ça... Enfin, on dirait... Tu sais, il y a un côté encore ricain, mais dans les speeches d'Empowerment de Harvard où tu vois ce fameux truc très Harvard de ne faites pas un métier, inventez votre métier, quoi.
Ouais.
Qui n'est pas trop vraiment l'éducation française quand même.
Ah oui, pas du tout,
Mais donc c'est ouf que toi tout seul t'aies eu ce même chemin-là de je veux inventer ma vie et je veux que le bonheur soit le point déterminant.
Ah ouais, c'est ça. Ben, en fait, j'ai un memento mori très fort depuis petit. Je sais pas pourquoi, c'est pas glauque, mais je sais que ça va s'arrêter. Tu sais, je sais que la vie a un début, une fin. J'ai fait des calculs de ouf. Moi, je fais des calculs de ouf dans ma tête. Je sais que j'ai vécu 90% de la vie que je dois passer avec mes parents. On a vécu 90% de notre relation. On est sur les 10 derniers pourcents. Donc, je n'ai pas le temps de décrocher à ma mère si elle m'appelle. C'est mort, en fait. Plus tard, je n'ai pas le temps, maman. Moi, ça n'existe pas dans ma vie, tu vois. Alors que j'aurais plutôt ce réflexe, comme j'ai plein d'activités, tu vois. Donc, depuis petit, j'ai ce memento mori très fort. Et du coup, je n'ai pas le temps de ne pas être heureux. Mais je la répète, la phrase, parce que moi, elle me parle profondément. Je n'ai pas le temps de ne pas être heureux.
Ouais, et là, ce n'est pas américain, c'est quasi bouddhiste. Il y a un truc où on pense plutôt... tu vois, moi, je reviens de Thaïlande, j'ai l'impression que là, c'est plutôt en Asie où il peut y avoir ça au centre.
Ouais, absolument. Et donc, je veux être heureux tout le temps. Donc, pas de métier, pas de machin, juste envie de faire des formations, de lire des bouquins, d'apprendre des livres, des trucs, des machins et tout. Et quand tu n'as pas de projet professionnel, et quand ton projet de vie est aussi simple que le mien, tu es d'une flexibilité incroyable. On a l'impression que j'ai eu 1000 opportunités dans ma vie, mais c'est juste que je les ai vues. Elles existent tout le temps, tu vois. Et comme j'ai pas de projet de vie, j'ai pas l'impression, quand je fais des virages à droite ou à gauche, d'abandonner de l'énergie que j'ai mis d'un côté pour avoir un but. Et mince, je suis en train de changer. Est-ce que c'est bon, pas bon? Je me pose pas la question. Ma question, c'est marrant ou c'est pas marrant, tu vois. Et donc, à un moment donné de ma vie, on me donne l'opportunité de faire des conférences sur le cerveau. Je me dis, c'est marrant ça. Je vais en faire 2-3. Et puis, je fais ça durant longtemps. Et puis on me dit en même temps, un autre moment, mais tout est lié évidemment, il y a un gars qui me dit, mais tu le ferais en Inde, en anglais, mois de novembre, c'était 6 mois plus tard. Et oui, parce que je me dis, en 6 mois, j'ai le temps d'apprendre l'anglais. Bon, au moins, ma conférence en anglais, en par cœur, tu vois. Oui, bien sûr. Et je le fais parce que c'est rigolo. Je passe 15 jours en Inde à faire ça. Et du coup, j'ai l'opportunité de continuer à en faire à l'étranger. Donc jusqu'en 2011, je vais faire énormément de trucs à l'étranger comme ça. Et à un moment donné, je gagne super bien ma vie. Mais c'est un hasard à ce moment-là.
En donnant des conférences sur le cerveau.
Sur la mémoire, des petites démonstrations, tout ça et tout. Donc c'est du mentalisme, mais je ne mets pas encore cette étiquette-là, tu vois. Et puis, la vie fait que je rencontre une jeune femme. On passe plusieurs années ensemble. Et elle était danseuse, elle est toujours danseuse d'ailleurs à Paris. Et puis je me dis, j'aimerais bien qu'on passe plus de temps ensemble, donc je vais faire en sorte de passer plus de temps à Paris. Mais elle bosse, elle danse et tout, donc je ne vais pas m'embêter. Et me vient, pareil, un truc à la tête. J'avais rencontré un gars en Ukraine, à Yalta, qui pour faire des cachets, faisait de l'accompagnement de personnes, bon bref. Et il m'avait dit, tiens, j'ai des copains qui ont acheté un théâtre à Paris, si un jour ça t'intéresse d'essayer. Donc je le rappelle et tout, Jérôme, machin... Et donc, c'était la comédie des Trois Bornes.
Ouais.
Ils me donnent le contact, je les appelle et puis je leur explique ce que je fais. Et puis, ils me disent, non, ça rentre pas dans la ligne, on fait full humour et tout. Et donc, je les rappelle, je les harcèle un peu en mode, laissez-moi faire un essai devant vous.
Tu veux te sédentariser par amour.
En tout cas, m'occuper quand je suis là, tu vois, pas être en train de glander, quoi. Et du coup, ils me disent, ok, viens, je leur fais une démo de 5-6 minutes. Ils rigolent, ils trouvent ça drôle, ils disent, ok... On n'avait pas de mec de ton profil, mentalisme ou magie, mais ok, toi, tu seras le seul. Et on part sur 3 mois. Et donc, ça fait 13 ans, 12 ans maintenant, que ça continue. Parce que je comptais faire 3 mois et reprendre les conférences. Et en fait, j'ai bien aimé.
Ouais.
Donc, en fait, je continue à faire ça pour l'instant, tu vois ce que je veux dire. Et toute la vie, c'est que des trucs comme ça. Quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos, c'était juste parce que j'avais dit à un copain, tu sais ce qui serait bon pour un gars ou pour une nana qui veut être à l'aise face à une caméra, c'est de faire une vidéo par jour pendant un an. Ça doit te développer la créativité. Il me fait, bah, fais-le, je n'ai pas le temps et tout. Sauf que ça germe, je me dis, oh, bon, allez, okay, je fais ça. Je fais ça pendant un an, ça me fait un défi créatif, ça me rend à l'aise vis-à-vis d'une caméra et j'écrivais mon nouveau spectacle, donc c'était intéressant de le faire. Et puis bah ça fait 7 ans parce que j'ai bien aimé, tu vois. Et pareil pour les bouquins et pareil pour d'autres choses qui vous parleront pas parce que qui n'ont pas eu de succès grand public, mais que j'ai fait aussi juste parce que ça se présentait, c'est du kiff, tu vois. Donc pas de projet et pas de difficulté à faire des virages à droite à gauche, je m'en fous parce que c'est rigolo, tu vois. Ça paraît très naïf ou trafiqué hein, comme phrase, mais vraiment ça se limite à ça. Aujourd'hui, c'est cool parce que je peux me permettre des virages beaucoup plus dangereux parce que j'ai des ressources financières derrière que je n'avais pas avant. Mais je peux vous jurer que je faisais les mêmes virages sans ressources financières. Et quand je suis revenu de mes conférences, j'étais un peu le sentiment d'être un peu blindé, tu vois. Bon, bah, 6 mois après, je comptais les pièces de centimes pour payer le métro et aller au théâtre, tu vois, parce que ça ne rentre pas en ligne de compte. Et je sais que je trouverai toujours du taf. Quand j'étais à La Rochelle, que j'avais plus d'études, plus rien, à un moment donné, c'était un peu plus dur. Donc, quand je dormais en toile de tente, bah, j'allais sur les marchés le matin à 5h. Je disais, qui a besoin de deux bras pour décharger les camions? Et puis, tu vois, ce que je veux dire, j'ai jamais peur de ne pas savoir comment je vais manger. En vrai, je trouverais toujours un truc, tu vois.
Wow. Est-ce que quand tu as écrit ton livre sur le temps, c'était aussi un moment peut-être où, entre la scène, les vidéos et les livres, tu as pu frôler le burn-out?
Non, je ne l'ai jamais frôlé.
Jamais, waouh.
Non, mais j'ai une hygiène de vie. Alors, j'ai des curseurs que je bouge. Le curseur que j'ai baissé en dernier, il y a 6-7 ans de ça, c'est plus d'alcool.
Ouais.
Donc, plus besoin de temps de sommeil pour récupérer l'alcool, plus besoin, machin.
De la migraine du matin.
Ouais, c'est ça. Ouais et puis l'âge aidant, tu récupères de moins en moins vite et tout. Et j'ai eu des années aussi en restauration où j'ai vraiment bien profité, c'était vraiment cool. Mais donc, tu vois, j'ai des hygiènes de vie aussi, des trucs un peu fous. J'ai pas d'ordi chez moi.
Ah oui.
Moi, quand je rentre chez moi, tu ne peux pas me faire travailler. Et je n'ai pas mes mails de boulot dans le téléphone. Ah. Donc, c'est impossible. J'ai les bureaux qui ne sont pas loin. Donc, ça, c'était le truc pour me soulager mentalement, me dire s'il y a une urgence, j'irai. Il n'y a jamais rien eu qui a réussi à me faire sortir de la maison pour retourner au bureau, tu vois.
Ouais.
Donc, en fait, je slotte bien ma vie, en fait, tu vois.
Peut-être avec une danseuse, peut-être aussi, c'est aussi une hygiène de vie, hein, quand même. La danse, il y a une rigueur.
Ouais, alors on n'est plus ensemble. Hein. Ah non, ça c'est. Mais on est resté amis. On est encore amis aujourd'hui, tu vois. Mais moi, je suis resté à Paris, du coup.
Ouais.
J'ai ce truc-là de. J'ai envie de profiter de mes moments. J'ai envie de. Tu vois, hier soir, je jouais à la console. J'ai envie de faire ça. J'ai envie d'avoir le temps de lire des livres. J'ai pas envie, surtout dans tout ce que je développe aujourd'hui professionnellement, c'est 6 à 10 dernières années. C'est lié à tout ce que j'ai appris depuis que je suis jeune. Et j'ai pas envie de devenir ce gars qui recycle en fait un savoir, on va dire, des prérequis qui commencent à dater.
Ouais.
Tu vois, moi j'aime apprendre, j'aime lire, j'aime expérimenter, j'aime découvrir des trucs. Donc il me faut du temps pour ça, c'est important. Si aujourd'hui je fais plus de spectacles de mentalisme, de livres sur le cerveau, de vidéos, de machin, j'aurai les mêmes lectures, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes activités, tu vois. Donc, il me faut du temps pour ça. C'est trop important.
Ouais. Et juste avant qu'on enregistre, quand on est entré dans la pièce, on a parlé de jouer à Paris versus la tournée. Et c'est marrant parce que maintenant, je comprends mieux notre discussion parce que je comprends que ce qui motive beaucoup tes décisions, c'est le bonheur. Donc, être heureux. Et on parlait, je ne sais pas si tu veux l'aborder ici, de la difficulté de jouer du public parisien.
Ouais.
Et
de l'ensemble, hein, public, l'ensemble professionnel
milieu, théâtre, conditions,
Très compliqué.
Très difficile, et rentabilité globale, voilà. Ouais. Et c'est vrai que, moi, je le vois, parfois, ça me fait vraiment un choc quand je fais des dates de tournée et que je reviens à Paris.
Bah oui, parce que toi, tu alternes les deux, t'as Paris tournée, là, en ce moment.
Et c'est schizophrénie, quoi. Récemment, j'ai eu des publics, et peut-être que tu pourras m'aider, je te raconterai une anecdote où j'ai vécu une anecdote très difficile avec un spectateur, où je pense avoir mal géré. Peut-être que tu as des petits conseils pour ça. Mais toi, l'un des premiers... Est-ce que tu te souviens quand tu t'es dit « Oh là, je sens que je prends moins de plaisir à Paris. Pof, je réadapte mon système. Je ferai surtout de la tournée. »
J'ai pas vu que je prenais encore du plaisir au départ avec les mêmes difficultés que je verrai par la suite, mais sûrement aussi dans l'excitation du début de la découverte, tu vois, de cette espèce de ce truc de monomaniaque d'aller voir ton remplissage pour mardi prochain, de machin. qui est très douloureux parce que et là on parle même plus d'ego, de rentabilité, on parle de pas avoir envie de jouer devant 5 personnes en fait, parce que tu peux pas proposer ton spectacle tel que tu l'as imaginé, c'est pas vrai quoi, tu vois. Donc ça, je le vivais bien au départ, etc. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à augmenter ma jauge au point virgule déjà, qui est un beau 110 places où j'étais bien accueilli, où pareil, un peu comme les trois bornes, Antoinette, elle m'avait dit il y aura jamais de magicien, de mentaliste chez moi. Elle est venue au showcase, elle a dit faut qu'on discute, tu vois, c'était trop cool. Donc c'était un bonheur de vivre tout ça. Mais je commençais déjà à être un peu usé, ouais, de ces questions de remplissage, de matériel abîmé, de public très difficile. Putain, jeudi, t'es le roi du monde, celui d'après, tu peux même pas convaincre personne avec tes meilleures blagues. Enfin, c'est très compliqué. On en parlait, toi et moi, parce que t'as une impression de devoir justifier ta légitimité à être sur cette scène ce jour-là.
Oui, c'est les pas, convaincre.
Ouais, c'est pas une proposition artistique, c'est un entretien d'embauche à ce moment-là.
Ouais, c'est le ring.
Ouais, ouais, c'est très dur. Ouais. Et j'ai commencé, comme toi, à cette période-là, à goûter aux dates de tournée. Ça a commencé déjà à mindfuck un petit peu.
Ouais.
Et en même temps, c'est là où je suis passé dans des plus grandes salles à Paris. Donc, c'est en 2014, 2015, tu vois, c'est un ou deux ans avant de commencer à faire les vidéos où je fais le grand point virgule, ces salles-là. Et là, en plus, comme moi, je suis en autoproduction, je vois ce qu'on me demande, j'ai l'impression d'être le dindon de la farce, mais tout le temps, quoi, tu vois, dans la prépa, dans le fait de tout payer, dans ce qu'on me demande, dans le fait que le public, c'est compliqué aussi. Et à côté de ça, je vis des moments d'une intensité en tournée, avec des théâtres où les gens sont ravis de t'accueillir, où ils font des efforts aussi des fois sur tes demandes, où t'as un public qui est content de sortir ce soir, etc. Et c'est là où je prends la décision, donc en 2015, de me dire « Non, mais terminé, en fait. Je vais considérer que Paris est une ville de tournée.
»
Et le jour où j'ai fait ça, ça a changé ma vie. Ouais. Et depuis, mes dates à Paris se passent très bien parce que je loue des grandes salles. Donc, je suis responsable de ce qui va s'y passer, tu vois. C'est plus des contrats de co-réalisation. C'est le type de contrat qu'on signe, nous, en général, pour ceux qui nous écoutent. Là, je loue vraiment le truc et j'en fais bien ce que je veux. Et dans ces grosses salles, comme j'en fais qu'une par an, c'est que les gens qui ont envie de me voir, qui viennent me voir. Il y a plus ce truc de quand t'es toutes les semaines quelque part, que tu cherches à te faire découvrir, tu vois. Et ça, je le vis beaucoup mieux, quoi. Moi, on m'a dit que c'était comme souvent dans ma vie, d'ailleurs, on m'a dit que c'est une très mauvaise idée. Les gens vont t'oublier, les professionnels aussi. Donc, tu te grilles à faire ça. Bon, bah, c'est l'une des trois meilleures décisions de ma vie, d'avoir fait ça, non, très clairement.
Et tu vis à Paris ?
Et je vis à Paris, absolument. Mais regarde, on m'a dit, on va t'oublier. Donc, je loue l'Olympia en 2017 pour 2018. Durant un an, tout le monde me parlait de l'Olympia. C'est comme si j'ai fait l'Olympia pendant un an. Donc en fait, non, on ne m'a pas oublié. On n'a jamais autant pensé à moi. C'est incroyable, tu vois. Parce que c'était une actualité forte. Donc en fait, tout le monde en parlait. C'était le fer de lance du truc, tu vois. Le Zénith de Paris, c'est pareil. Il a été reporté avec le confinement. J'ai eu l'impression d'avoir fait 10 Zéniths de Paris. Je ne l'ai fait qu'une fois. Il était complet, c'était incroyable, tu vois. Mais je ne l'ai fait qu'une fois au final, quoi. Il y a même eu un article de presse qui a dit son deuxième Zénith. Parce qu'avec le report, ils ont cru qu'il y en avait eu deux.
Génial. Ouais, c'est vraiment, on suit pas le vent, on est le vent. C'est aussi qu'à un moment, c'est quelles que soient vos recettes et vos citations, vos techniques, c'est ce que toi, tu décides qui te rend heureux, qui marchera le mieux pour toi.
Ouais. En fait, c'est pas grave d'avoir des décisions tranchées. C'est pas grave d'être dans ton propre courant, dans ton propre vent. Et c'est pas grave de dérationaliser quand quelqu'un te dit c'est pas la bonne décision et ça va pas le faire. C'est par rapport à ses objectifs à lui, ses peurs, ses espoirs. Mais est-ce que c'est les tiennes ? Je crois pas, tu vois. Et comme moi, ma peur, c'est de pas être heureux, je sais pourquoi je prends la décision. Et peut-être que la personne avait raison et qu'on aurait pu m'oublier, tu vois. Peut-être qu'on allait moins parler de moi, peut-être que j'allais devenir ce gars qui allait faire que des cafés-théâtres en province. Mais moi, j'étais OK avec ça. Parce que ça allait me rendre heureux, parce que je sais que mon objectif dans la vie, c'est pas de remplir des zéniths. Ça, c'était une conséquence, un dommage collatéral, très cool à vivre. Mais je veux dire, j'étais heureux de mon métier d'artiste sur scène le jour où j'ai rempli des 250 places en tournée. Et ce jour-là, je m'en souviens précisément, je suis à Nantes, où je me dis, si ça se maintient pour toute ma vie, je peux vivre de ce métier toute ma vie en écrivant un spectacle tous les 2-3 ans. tu vois. Et donc, go latin. Tout le reste, c'est du bonus d'un coup, tu vois.
Bah ouais, puis c'est le problème de ces phrases toutes faites venant souvent de professionnels, c'est qu'elles sont déjà, elles datent déjà d'hier. En général, au moment,
oui, c'est vrai.
C'est que c'est déjà, t'as fait tes calculs selon ton habitude du résultat, de tes observations sur en fait quoi, ces 10 dernières années, mais c'est déjà différent aujourd'hui. Ça change tellement vite.
On appelle ça la réussite du passé. C'est un biais cognitif du cerveau où il va se fier à son passé pour décider aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu vois en politique tous les politiciens qui se revendiquent de Mitterrand ou de Gaulle ou de machin. Surtout pas. Surtout pas. L'époque, elle a changé, tu vois. Tout a changé. Et ce biais cognitif, il est puissant. Moi, je l'ai vécu encore récemment. Quand je me suis lancé sur YouTube en 2016, des gens...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du métier que tu connais, que je te citerai après pour le plaisir de vous dire que vous ne serez pas tout, m'ont dit que mes vidéos, c'était ridicule et pathétique. Okay, c'était violent, tu vois, c'était premier degré. Hein.
Oh, wow.
C'est des gens qui m'ont demandé des conseils après dans le temps. Et ils me disaient, ouais, sur YouTube, il n'y a que des ados, c'est nul, c'est ridicule ce que tu fais, j'ai regardé, c'est pathétique et tout. Et moi, l'année dernière, j'ai mon équipe à qui je bosse qui me dit, tu vas faire des trucs sur TikTok? Je suis, oh non, je regardais, c'est un peu ridicule, pathétique, il n'y a que des ados. Et du coup, j'ai dézoomé. Tu vois, je me suis dit, putain, j'ai refait le même truc qu'avant, mais pourquoi? Et en fait, parce que j'ai l'impression que le meilleur conseil que je puisse donner à tout le monde, c'est, non, il faut commencer par YouTube. Mais c'est parce que j'ai commencé, moi, par YouTube en 2017. Donc, j'ai fait un dézoom, j'ai enlevé mes a priori, etc. J'ai fait les vidéos que j'avais envie de faire, moi, sur la plateforme, qui n'étaient pas forcément adaptées. Et puis, en fait, elles fonctionnent très bien et elles ont trouvé le public qui m'est adapté, tu vois. Mais c'est comme quoi, c'est dangereux, parce que même moi, qui suis quand même au fait des biais cognitifs, je me les prends quand même. Donc, et tu te dis, si déjà nous qui avons conscience un petit peu de attention à ce qu'on pense et attention à la première pensée qui nous vient, on peut se faire avoir des fois. Imagine ceux qui n'ont pas du tout ce côté-là introspectif et qui ont des vérités à te dire, quoi, tu vois.
Ouais, et puis la grande différence parfois avec les professionnels du métier et les artistes, c'est que je crois qu'ils aiment et respectent un tout petit peu moins le public.
Ouais.
Je crois qu'on a quand même tendance plus à estimer l'intelligence
des gens. Bien sûr. Non, ben oui.
Donc, ils sont toujours persuadés qu'ils ne comprendront pas. Alors que non, enfin, quand même.
J'ai un concours d'humoriste, 2013, quoi, 2012, où j'ai rien gagné, ce qui n'est pas anormal. Sauf que ce jour-là, c'est moi qui ai ramassé. Ouais, tu ne sais pas pourquoi. Il y a des jours, tu es meilleur que d'autres jours. Tu es face à un public qui est fait pour toi. Il y a une magie. Et c'est toi qui ramasses les rires et les applauds. Donc, ce jour-là, c'est irréfutable, c'est moi. Et je ne gagne rien. Je ne vais pas à la suite, il y a une finale, je ne vais pas en finale. Et je me dis, tiens, je vais aller parler aux membres du jury et au directeur du jury, qui est un humoriste très connu, un vieux de la vieille, et pour savoir un peu ce qui se passe, tu vois. Et puis, il me dit, mais toi, c'est pas de l'humour que tu fais, tu parles de science, tu fais du mentalisme, c'est pas de l'humour. Non, et puis en plus, calme-toi, quoi. Pense pas que les gens, ils vont réfléchir à tout ce que tu vas dire, etc., quoi, tu vois. C'est incroyable, hein.
Quel mépris.
C'est incroyable.
Ah, c'est terrible.
Ouais. Bon, ce mec ne fait plus de spectacle depuis quelques années.
Ça ressemble à du mépris politique, ouais.
Ah, c'est un gros mépris quand même.
Ouais,
hein,
terrible.
Il avait dit un truc du style, en faisant le geste de poète-poète sous le bras, tu leur fais ça déjà et puis ça va. Commence par savoir faire ça, quoi.
Quelle horreur.
Ah, mais waouh. Tu vois, c'était fou. Moi, j'aime bien en plus, j'ai pas de problème à commencer par la base et à faire la base. Tu sais, il y a une phrase de Bernard Werber qui m'a marqué. Donc c'est l'auteur de plein de livres. J'ai la chance de le compter depuis des années parmi mes amis. On parlait de romans, d'écriture, parce que selon lui, il faut que j'écrive des romans. Il me dit, à partir du moment où tu sais faire des numéros de bluff sur scène, tu sais écrire un roman, tu vois, tu sais surprendre. Et je lui dis, il faut trouver une idée originale et tout, quand même, parce que je ne vais pas faire le énième polar, le énième machin. Et il m'avait dit, commence par savoir faire du très bien pas original. Ou du pas original très bien. Et après, tu feras ce que tu veux. Et j'aime bien cette phrase, tu vois. J'ai pas de problème à faire du pas original très bien, tu vois. Mais là, la réflexion que l'autre m'a dit, c'était au-delà de tout, quoi, tu vois. C'était fait du nul parce que le public ne mérite pas mieux. C'est ça hein, qui est
ouais, ça, c'est ça.
Quand je te dis c'est un vieux de la vieille, c'est vraiment un très vieux de la vieille qui ne performe plus aujourd'hui parce qu'il il s'est auto-grillé de partout, tu vois. Ouais. C'est le mode de pensée qui marchait peut-être, qui ça se voyait pas il y a 30-40 ans quand il y avait 5 chaînes de télévision et si t'étais sur un média, tu devenais connu, point, tu vois. Aujourd'hui, c'est une connerie d'ailleurs aujourd'hui de vouloir être connu de tous. On a quand même assez de chance en termes de médias et de possibilités d'aller se connecter à notre propre public.
Ouais.
De le faire augmenter jusqu'à une certaine mesure, mais c'est pas grave que personne t'arrête dans la rue. C'est tu vois, ça veut dire que les gens avec qui tu vas te connecter, ils vont être des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des millions parfois, et c'est que des gens qui sont OK avec ce que tu proposes. Mais quel bonheur intense quand même!
Bah ouais, c'est incroyable. Et puis justement, j'ai tellement eu ce truc de ouais, ce que tu fais, c'est un peu parisien, justement, en tournée. C'est le mépris aussi de Paris pour ce qui n'est pas Paris.
Ah oui.
Ils vont pas comprendre. Et puis, résultat, moi, à chaque fois que les gens riaient ou comprenaient, j'étais en mode oh, mais formidable!
Bien sûr,
en fait, je veux dire, c'est. Mais oui, c'est vraiment ce truc de. Ouais, de supériorité, de dédain. On a fait 57 minutes. Est-ce que tu as encore le temps? Est-ce que tu as encore le temps pour le questionnaire de Proust?
Absolument. Je regarde à quelle heure je dois partir. Je crois que c'est à 30.
Il est 17h.
Oui, j'ai jusqu'à 17h30.
Ah, génial. Et bon, bah alors avant le questionnaire de Proust, je te raconte alors la petite anecdote récente et tu me diras si tu as des conseils peut-être pour comment je pourrais mieux gérer ça à l'avenir. Je ne l'ai pas encore raconté parce que je n'ai pas vraiment tout à fait le temps de processer ce qui est
j'ai
arrivé.
J'ai l'impression de faire l'émission « Fabien vous écoute et vous conseille ».
Ouais, mais pourquoi pas, tu devrais, ce serait trop bien. Bah, en fait, tu n'as pas encore ton podcast.
J'ai un podcast d'humour, mais je n'ai pas un podcast
Bah, tu pourrais avoir un podcast où tu reçois des questions des auditeurs,
c'est vrai.
Ça serait super, tu sais, c'est ce que fait Sarah Silverman.
Ouais, c'est vrai.
Et franchement, c'est passionnant, ouais. Hein, ces réponses très personnelles, parfois hyper
C'est ça, c'est, oui. C'est du conseil d'amis.
Oui, voilà, elle dit, moi, je le ferai pas, voilà, j'irai pas, et j'adore, je trouve ça. Bon, en fait, c'était il y a quelques semaines à la Comédie de Paris, donc je t'ai dit, souvent, il y a des publics mal polis qui sortent, qui se déplacent, qui reviennent dans la salle, qui arrivent très en retard, qui parlent, qui commentent, et j'essaye pourtant de... sous fond de blague, de donner les codes, de dire ne commentez pas en riant ou mais sous forme de blague. Et là, et le truc, c'est qu'en effet, je les vois avec la lumière et puis parfois, j'aime bien, normalement, ça se passe bien, les regarder pour aussi pouvoir faire des impros de temps en temps.
Des interactions avec, bien sûr.
Et là, je vois un gars... qui tu vois, il y a la Comédie de Paris, c'est quand même pas si grand, il y a une allée au centre et là il est le seul sur un gradin au milieu, il est très grand et il a les jambes totalement étendues et il se tient pas droit, il se tient quasi allongé en fait sur son strapontin. Donc, ce qui fait qu'il occupe quasi tout l'espace du couloir devant moi. Et je vois qu'il a une tenue un peu chelou, je sais pas, un peu genre ce que je vois comme un truc un peu de bobo, bleu, un truc un peu... Et puis, il est là et il a vraiment ce regard de dédain, tu vois, ce truc. Et donc, bon, à un moment, je vais sur le côté, je m'assois. Et moi, il faut savoir que je suis quand même dans une situation un peu vulnérable de par les sujets que j'aborde, de par le fait d'être pieds nus, de par le fait d'être en pyjama.
Oui,
donc, il y a plein de choses qui font que, en fait, je peux vite me sentir quand même un peu en danger.
Ouais, c'est vrai, je comprends.
Et le truc, c'est que je sens et je me dis, on va pas non plus s'éterniser là-dessus, mais je me dis, ça se trouve, avec une petite blague, je peux canaliser...
Désamorcer un peu.
Et donc, je lui dis, je m'adresse à sa copine et je dis donc, j'ai l'impression que... Je disais, ah oui, je fais une blague, donc ce soir, il y a un peu moins de mecs dans la salle. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont venus là de manière consentie? Vous avez été forcés par leur nana? Il y a plein de mecs qui applaudissent, ils sont venus, c'est même eux qui ont pris les places. Mais lui, il en profite évidemment pour dire, elle m'a traîné là, elle m'a forcé. De toute façon, hier, on a failli se séparer. Donc je dis, ok, bon, ça va être gratiné.
On part pas sur une bonne base.
Et en même temps, je me dis, ça se trouve, c'est cadeau, puisque les gens rient autour et ça sert un peu mon propos et que c'est tellement une caricature de mec alpha hyper oppressif que bon... Et je dis, bon, mais je me dis, attention quand même à l'énergie humaine. Et puis... Je m'en sers et je fais une blague genre alors voilà l'exemple du mec toxique ou je sais pas quoi un truc hein. Et puis je refais mon spectacle, je continue et en fait je vois que tout le spectacle il change de place, il se repositionne, il s'affale sur sa copine, il fait semblant de dormir, à un moment il répète mes blagues à voix haute et il a autour de son cou des clés avec lesquelles il joue et donc ça fait un cliquetis. Et que quand je fais des pauses, des temps et tout machin où il n'y a pas forcément de rire ou c'est plus une question, j'entends le cliquetis de ses clés. Et j'étais très fatiguée et je commence à péter un câble.
Ouais, bah oui, oui. Parce que t'as trop attendu là pour le coup et tu l'as accumulé. Hein.
J'ai trop attendu, j'ai trop accumulé, j'ai pas su comment. Enfin, j'ai essayé à un moment de lui dire. À un moment, quand il a commencé à faire mes blagues, j'ai sorti un truc qu'on utilise souvent, genre laisse faire les professionnels, c'est un métier.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis les gens rient autour, mais je sentais quand même aussi les regards des gens gênés, tu vois.
Ouais.
Et bref, je tiens bon et je me dis, essaye de voir les autres, de pas se focaliser sur lui. Mais à un moment, le spectacle arrive enfin à sa fin. J'ai tenu bon. Et il y a une dernière partie du spectacle où je lis un texte. Et juste avant cette dernière partie, il y a un noir. Et là, il se barre. Et je suis en mode, ah,
trop bien.
Trop bien. Oui. Je ressens une joie profonde. Je me dis, c'est parce qu'à un moment dans le spectacle, je lui ai proposé de partir.
Ouais.
Je lui ai dit,
non, mais t'as tout à fait raison.
En fait, je me suis dit, ça serait un soulagement pour tout le monde.
Ça m'est arrivé aussi. Hein.
Ouais. Je lui ai dit, vraiment, franchement, je te le donne. Là, c'est un bon moment. Ouais. Ça dérangera personne. Sors maintenant, tu vois.
Le consentement marche aussi pour ta présence dans un spectacle.
Voilà.
T'es si pas tu consentant, pas... sors.
Ouais, tu l'as dit, elle t'a traîné. Ouais, tu voulais pas. Vous avez failli vous séparer. J'ai pas l'impression que vous allez passer la soirée ensemble. C'était pas ton choix d'être là. Vas-y, maintenant. Mais lui, il avait un sourire et il est resté.
Ouais.
Et donc là, il se casse. Et donc, je suis en mode, oh, et je déverse mon sac. Et donc, je dis au public, voilà ce que j'ai vécu pendant tout le spectacle, pendant une heure. Donc, les gens rigolent et on se soulage et machin. Et même, je dis à la nana, et donc, je fais des blagues, genre, des blagues un peu vulgaires en disant, ouais, j'espère vraiment qu'il y a une très grosse bite pour toute la table, tu vois, parce que sinon, vraiment, je comprends pas.
Vraiment qu'il y a un intérêt.
Ouais. Et puis, bon, finalement, et je m'apprête à finir le spectacle. Et là, il revient.
Incroyable.
Et je me dis, oh merde.
Ouais.
Et je ne sais pas comment réagir. Mmh. Et là, le problème, c'est que le public, on est, je ne sais pas, c'est quoi, c'est le ring, la boxe, me regarde.
Ouais, il attend.
Et il attend de voir comment je vais gérer la situation.
Ouais, c'est chez toi. Hein.
C'est chez moi.
Ouais.
C'est ma maison. Et le truc, c'est que là, on est un peu en même temps dans un film de Ruben Östlund, tu sais, où c'est, tu sais, dans Snow Therapy, je ne sais pas si tu l'as vu, une famille, il y a une avalanche. Et en fait, le film commence, il y a une avalanche, une famille.
Ouais, ils sont tous renfermés.
Et en fait, l'avalanche arrive, la femme protège ses enfants et le père se sauve. Et ensuite, c'est tout le film, c'est comment la famille va surmonter ce truc. Et là, il y a un truc de même d'ordre, un peu de testostérone entre lui et moi, de en fait qui est le maître.
Ouais.
Et là, je pense que je prends une mauvaise décision à ce moment-là. Je lui dis sors.
Bah après, t'as pris une décision aussi dans l'urgence de comment tu peux te protéger.
Ouais,
tu vois.
En fait, à ce moment-là, j'avais deux trucs. Je me disais ou tu l'ignores, mais c'est une marque de faiblesse et ça nique la fin de ton spectacle et c'est pas le personnage que t'as incarné.
Ouais.
Et en fait, même. J'ai pas envie. J'avais dit, c'est lui ou moi, mais il y a quelqu'un qui doit sortir, en fait. Et j'en pouvais plus de me faire saboter mon spectacle, mon temps, mon heure, mon plaisir, mon bonheur, ma raison d'exister. Il était en train de tout gâcher,
bien sûr.
Et donc, je lui dis, sors, en fait. Et il veut pas sortir. Et il dit non de la tête, il dit non. Et donc là, je me dis, écoute, on appelle un ouvreur. Et je dis à l'ouvreur, sors-le. L'ouvreur ne supporte pas à ce moment-là que je lui parle comme ça. Monte contre moi et refuse de sortir le gars.
Là, c'est un autre problème. Pour moi, c'est un autre problème parce que l'ouvreur n'a pas le passif.
Ouais,
à ce moment-là, il est obligé d'être dans ta team. Il a pas le choix, là. Il a vraiment, vraiment... Là, pour moi, le problème est là. Parce que, en gros, de toute la situation, il y a 1000 choses qu'on pourrait revoir ou redétailler, mais il faut pas oublier le fondamental. Le comportement de cette personne est anormal depuis le départ. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, chacun va réagir avec ses armes en fonction de ce qu'il peut, etc. Pas plus tard qu'à la Coupe du Monde, moi, je jouais au Palais des Glaces. Les gens ont été traînés de force le soir de match. Je voyais les gens regarder les écrans. Ça me rendait ouf. Donc, j'ai fait deux vannes aussi, tu vois, pour désamorcer, mais pour dire attention, j'ai conscience que c'est relou. À un moment donné, j'ai coupé le spectacle en disant, écoutez, tous les petits génies qui pensaient que je ne les vois pas, votre visage est rétroéclairé, en fait, par votre téléphone. Donc, ce que je vous propose, vous pouvez aller au balcon, il reste de la place dans le fond, je ne vous verrai pas, vous serez trop loin, ou vous pouvez partir. Franchement, si j'étais vous et que j'étais passionné de foot, moi, je ne serais pas là. Donc, allez-y, tu vois. Donc, on a tous été jusqu'à la rupture de la transparence en dehors d'un spectacle pour régler un conflit plus ou moins fort. Et j'ai eu le cas, encore une fois, là, en tournée récemment, où c'était une ambiance un peu faite au village. Donc, rien de méchant, mais alors injouable.
Ça picole, ça
parle,
ça sort
en même
toilette,
temps que toi, ouais. Ça, mais un délire. Mm. Et donc, ouais, j'ai été obligé aussi d'être transparent parce qu'à un moment donné, il faut envoyer les bons codes aussi, quoi. Tu vois, si la personne n'a pas les codes du spectacle vivant et n'a pas compris la difficulté d'un one man, d'un seul en scène de deux heures, bon, ben, on va passer par cette partie-là, tu vois, avec
éducative.
Plus ou moins de douceur en fonction de la réponse qui est en face. Toi, le problème, c'est qu'en face, de base, t'as quelqu'un qui a le mauvais comportement, qui ne veut pas être là, qui est dans une situation de conflit. Mm. Donc, en fait, il va pas respecter ton lieu de travail ou ton spectacle, parce que c'est toi qui viens de rentrer dans sa vie. C'est pas l'inverse pour lui, tu vois, il n'y a pas cette démarche-là. Le moment où il part, c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Moi je lui aurais même proposé de partir bien avant toi, je pense, tu vois, avec un remboursement et tout. On va te rembourser, il n'y a pas de problème. À partir du moment où il rentre, tu as tout à fait raison de refuser ça et de ne pas l'ignorer.
Okay.
Ça, c'est, pour moi, c'est la première chose.
Okay.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi ton lieu, ta maîtrise, ta vie, ton outil de travail, ton intégrité physique et morale. Ce n'est pas des 20 mots, ces deux phrases-là, intégrité physique et morale. Tu peux refuser et tu dois le refuser. Le fait que tu appelles l'ouvreur qui fait partie de ton équipe, c'est le meilleur réflexe. Tu ne vas pas le sortir toi-même, militari. Ce n'est pas le public qui va s'en charger non plus. À partir du moment où tu es lâché par la personne de ton équipe, là, j'avoue, j'ai plus de solution parce que tu as le droit de faire demi-tour et de dire revenez la semaine prochaine, je vous invite tous. Mais là, c'est pas possible.
Ça. Alors attends, je vais te raconter la fin. Et de toute façon, quand l'épisode sort, je jouerai plus dans ce théâtre. Donc,
C'est inadmissible en vrai.
Moi, je me suis dit, mais comment il peut ne pas être de mon côté, ne pas penser à ma sécurité? Et en fait, là.
Parce que du coup, il dit quoi?
L'ouvreur se monte contre moi en disant qu'il ne me croit pas, que le mec est juste allé aux toilettes et qu'il ne peut pas sortir un gars qui est juste sorti aller aux toilettes.
Et ça, il dit ça au milieu de ta salle, devant tout le monde?
Au milieu de ma salle, fort, devant tout
donc,
le monde.
Donc le prérequis de ton ouvreur, c'est Rosa ment sur scène devant le public.
Et Rosa me dit « sors-le », ce qui est à ce moment-là, en fait, peut-être, je l'ai formulé de façon un petit peu intempestive, mais il se dit « elle me parle mal » ou « elle se prend pour qui ?»
Ah oui, mais c'est pas possible.
Alors que moi, c'était pas... j'étais en train de vivre un stress très intense. Hein.
Au secours, dans la rue, si tu te fais agresser, c'est un peu un ordre, si tu peux
c'est
aider.
Exactement.
Aidez-moi, s'il vous plaît, de ce coup de couteau que je suis en train de me prendre.
Non, mais et c'est ça. Et là, le mec assis commence à parler de juifs brûlés. Je pense qu'il essayait de copier des blagues que j'avais pu faire d'humour noir dans le spectacle.
Ok. Il se foutait de ta gueule.
Il se foutait de ma gueule.
Mais t'imagines, lui, c'est vraiment, c'est une centrale nucléaire défectueuse à qui l'ouvreur vient de donner,
matière.
La matière pour la cramer.
Ah ouais.
Il vient de se faire valider, en plus par un autre mec. C'est incroyable pour lui.
Formidable. Donc, résultat, moi, pour me défendre vis-à-vis de l'ouvreur qui se met contre moi, je dis « Ah bah, vive la France collaborationniste !» Là, le public rit. C'est ouf, on se soulage, on descend.
Bien sûr, ils ont besoin de ça.
Ils ont besoin de ça. Ils sont très stressés aussi. Sauf que l'ouvreur se vexe de cette blague qu'il prend personnellement contre lui. Et le gars vient quand même de dire des trucs sur les juifs que les gens autour ont entendu. Et je pense que là, je suis en mode, maintenant ça s'arrête, tu vois. Blague ou pas blague ou quoi, ou en fait, moi j'ai expliqué, sous-entendu, j'ai mis plein de désamorceurs dans mon spectacle où les blagues du monde noir, elles peuvent se comprendre. Et donc, c'est le public qui me sauve.
Ouais.
Et donc, c'est le public qui a crié « Sors, 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 sors !»
Mais c'est la meilleure preuve. Si tu avais ne serait-ce qu'une once de doute de ta légitimité à ce moment-là à lui demander de sortir, t'as la preuve.
Ouais.
C'est parce que, encore une fois, le public ne va pas prendre en charge la sortie de cette personne, mais ils peuvent témoigner qu'ils sont d'accord avec toi, tu vois.
C'est ça. Et c'est les gens qui se sont mis à hurler. Et résultat, l'ouvreur est parti et le mec a fini par se lever et partir sous la pression du public qui criait « sors,
parce que l'ouvreur était parti.
Voilà.
Et parce qu'il était redevenu tout seul.
J'y ai pas pensé.
C'est sûr.
Oui, il avait plus son copain, son camarade.
Et
ensuite, il a rôdé devant le théâtre.
Bien sûr.
Et quand je suis sortie et que l'ouvreur m'a pris à partie en me disant « c'est pas mon rôle de faire ça », je lui ai dit « mais là, par contre, c'est ton rôle. S'il rôde devant le théâtre
sécurité,
et que je te dis que je suis en danger, de lui dire de s'éloigner. Il fait rien de mal devant le théâtre. Enfin, je veux dire, tu vois bien que je fais. » Et donc, c'était... mais ça me rassure que tu me dises que j'ai pas fait une erreur. Parce que, bon, après, je me suis dit, dans le doute, ça, je sauf les théâtres où il y a de la sécu, je ne ferai plus ça. Je demanderai ouais. plus à quelqu'un de sortir. J'insisterai plus pour que quelqu'un sorte. Je trouverai la manière de rebondir par une blague, ignorer ou voilà, parce que je me suis retrouvée à un carrefour.
Oui, ou de breaker très tôt. Mmh. Vraiment, c'est une solution ouais. que j'ai vraiment beaucoup utilisée, de breaker assez tôt le mmh. « excusez-moi, monsieur ». C'est, en fait, c'est des comportements d'enfant. Donc, mmh. on reprend les bases de l'éducation d'un enfant. C'est s'il y a un problème, moi, je suis mal à l'aise pour vous. Peut-être c'est mieux que vous partiez là mmh. pour vous. Je pense que vous n'osez pas par politesse et je vous remercie, mais vraiment sortez, tu vois, de l'amener sur ces terrains-là, de le responsabiliser, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à partir du moment où, de toute manière, où il a vu qu'il te faisait chier, il t'a fait chier.
Ouais.
Parce qu'il s'est dit j'ai un pouvoir. C'est le gamin de ce coach de clé, c'est très enfantin.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est je veux exister à ce moment-là. Et en plus, comme il a tout foiré avec sa meuf,
ouais.
il veut lui, par contre, reprendre le pouvoir de ce foirage. Donc là, il va bien être sûr que c'est de sa faute à lui parce qu'il a décidé. Tu vois ce que je veux dire ? Il termine de se saboter lui-même pour être en cohérence en fait, avec la situation qu'il est en train de vivre. Toi, tu as un dommage collatéral à ce ouais. moment-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, pas de bol, tu es une meuf. Et je pense que dans sa grille de lecture, ça fait sens. Quoi, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, et peut-être même qu'il était sous substance.
Oh, c'est possible.
Parce que c'est le, tu vois, c'est, on va passer au questionnaire de Proust, mais c'est, j'entendais Sarah Silverman et ça m'a aussi rassurée, qui disait qu'elle jouait son spectacle et qu'en fait il y a une femme qui s'était mise à avoir des interjonctions, des ouais. et en fait Sarah Silverman est partie en parano, elle s'est dit est-ce que mes blagues sont problématiques
ouais.
et est-ce que c'est quelqu'un qui a une conscience morale plus haute que la mienne et est-ce que je suis jugée et ouais. en fait et quand elle est sortie elle a très mal vécu ce moment, elle a pas compris ce qui se passait et quand elle est sortie on lui a juste dit c'était une femme bourrée.
Ouais moi je laisse pas passer ça. Le pire que j'ai fait et peut-être ça va t'unlock quelque chose, donc j'ai jamais demandé qu'on sorte quelqu'un depuis la scène, mais en fait une fois il y a quelqu'un qui visiblement me manquait de respect sur mon intégrité morale et physique puisqu'il a à moitié baissé son pantalon.
Oh putain.
Donc en fait j'ai fait une vanne, ouais. le public a ri, donc lui était sur scène, et je suis sorti de la scène.
Okay.
Et je suis pas rentré sur la scène. Donc lui, à un moment donné, il est redescendu, les gens se demandaient ce qui se passait. En fait, j'étais en loge, en train de, enfin en coulisses, en train de dire « Non, non, je veux que cette personne parte, sinon moi, je ne remonte pas sur scène. Contractuellement parlant, dans n'importe quel tribunal, on te parlera de l'intégrité morale et physique. » Vraiment, j'insiste sur ces deux mots, quoi, tu vois. Et donc les équipes l'ont fait sortir. Ça a duré bien 5, 6 minutes, 7 minutes. C'est long hein, pour un public. Il n'y a plus rien qui se passe. Hein. Plus personne sur scène.
Ouais.
Et donc, quand il est sorti, je suis revenu sur scène. J'ai dit, voilà, moi, je ne pouvais pas continuer à vous faire le spectacle pour lequel vous avez payé dans ces conditions. On reprend 2 secondes en arrière et maintenant, on est entre nous et on a repris à ce moment-là. Donc, j'ai préféré cramer en fait, un vrai moment de gêne de 8 minutes
ouais.
où je n'existais plus, j'étais en dehors parce que non, quoi. Tu vois. Et puisqu'il avait, c'est un grand mot évidemment, hein, mais je sais ce que ça implique, mais il avait violé ma scène, eh bien je pars de cette scène. Elle est souillée, elle est à toi pour l'instant. Et moi, je vais voir avec les équipes de théâtre et je ne remonterai sur scène que, voilà, ça m'est arrivé qu'une fois, je ne te le souhaite pas, mais tu vois, comme quoi, ce n'est pas déconnant d'aller jusque-là
de la sécurité.
Et de faire appel aussi à une aide extérieure.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'entité théâtre,
ouais.
quand on joue, la scène nous appartient.
Ouais.
Quand on nous dépossède de notre scène, eh bien, le lieu appartient au lieu qui nous accueille, point.
Ouais.
Tu vois, et nous, on est un outil qui va faire vivre cette scène si on nous autorise à le faire dans des bonnes conditions, quand même, à minima, quoi. Mais elle est intéressante, cette anecdote, parce
elle
que les personnes qui nous écoutent, je ne suis pas sûr qu'elles prennent en compte à quel point, des fois, ça peut aller loin, quoi, tu vois.
Ah ouais, c'est sûr. Il y a un côté... je recroisais des gens qui ont cette soirée, ils m'ont dit, on ne savait pas s'il y avait un côté Andy Kaufman, si, tu vois, si ton spectacle, ça se trouve. Est-ce que tu étais dans le coup ?
Ouais.
C'est qu'en sortant qu'ils ont vu l'état dans lequel j'étais. Tu vois qu'en fait, j'avais plein de sueur dans le cou et tout. Mais donc, oui, non, c'était clairement traumatisant, dans le sens très, très fatigant moralement.
Ouais, tu vois,
vraiment, je me suis dit... Bon, après, ça permet de savourer quand les représentations se passent bien.
Ah, c'est ça, c'est clair. Si t'as connu le noir, tu connais le blanc après. Mais...
Ouais. Et puis bon, après, il y a d'autres techniques. Et sinon, il y a une prof de pilates qui m'a dit, pour m'aider, ça m'a bien aidé. Peut-être que c'est un truc que toi, tu utilises. Si tu sens quelqu'un contre, elle me dit, prends-le aussi comme une réaction. C'est pas parce que c'est pas un rire. Donc, elle me dit, il faut que ça te fasse sourire. Il faut que tu te dises, ça marche aussi.
Oui, mais alors après, moi, je trouve que là, en l'occurrence, dans ton anecdote, il y avait une notion de danger.
Ouais.
Et ce que disait ton ami est juste, à partir du moment où il n'y a pas un danger.
Bah oui.
Ça, si c'est un très relou, tout va bien. Si c'est, tu vois, mais s'il y a une notion... Moi, j'étais pas là, je vois pas l'homme, mais par à ce que tu me dis dans sa manière de s'asseoir, etc., je vois une agressivité latente où t'as pas envie qu'il se lève là et qu'il commence à foncer sur scène en disant ah, c'est quoi le problème quoi,
bah
tu
ouais
vois
ouais et, comme on a pu comme ça arrive
bien sûr
ça
bien
arriver.
Sûr ouais, donc ouais ouais là,
y a
on
des
peut
limites.
Tout prendre comme une réaction tant qu'il y a pas un danger sous-jacent quoi.
Fabien, la qualité que tu préfères chez un homme?
Sa sincérité.
La qualité que tu préfères chez une femme?
Sa sincérité.
Le principal trait de ton caractère?
Flexible.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
La loyauté.
Ton principal défaut?
L'exigence de loyauté.
Ton occupation préférée?
Apprendre tout et n'importe quoi. Et... Parce qu'à la fois, c'est très bien. C'est... La curiosité, c'est très bien. À la fois, c'est un boulet parce que du coup, tu deviens un peu moyen partout, mais tu creuses pas toujours.
Ton idée du bonheur?
Pas de contrainte.
Quel serait ton plus grand malheur?
Mon plus... Attends, je réfléchis parce que j'ai jamais réfléchi à la question. J'ai plutôt un mode de pensée solution que problème, donc j'ai pas encore exploré. Je veux pas dire une bêtise juste pour faire joli. Malheur ou peine?
Malheur.
Malheur, ok. Mon plus grand malheur... Parce que je crois que je pourrais m'adapter, tu sais, à la contrainte, genre être à l'armée ou un truc comme ça, tu vois. Je crois que mon plus grand malheur, tu me vides toute sollicitation intellectuelle. Genre tu m'obliges à travailler à la chaîne, par exemple, sans écouteurs, sans casque, sans rien. Tu vois, juste, je l'ai fait un tout petit peu en intérim, ça, hein, de déposer des bouts de tomates sur des pizzas. C'est aliénant, ça c'est le pire.
Où aimerais-tu vivre ?
Près de la mer, mais je crois vraiment à La Rochelle, hein. C'est là où je suis né, là, c'est là où je compte mourir. Je crois que je suis chauvin et pourtant j'arrive à justifier ce chauvinisme, mais je crois que je suis juste chauvin.
Ce que tu détestes par-dessus tout?
Ce que je déteste, les personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Je passe ma vie à dire je te présente mes excuses, tu vois, ou je ne sais pas. C'est mes deux phrases favorites. On a le droit de ne pas savoir et de l'assumer. On a le droit d'avoir fait une bêtise et de l'assumer. Donc voilà, c'est ça la réponse.
Comment aimerais-tu mourir?
Violemment, sec, d'un coup. J'ai pas envie de me voir mourir. Moi.
Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel?
Que ça va, que c'était très cool de faire cette discussion. Et si tu veux tout savoir, c'est pas une légende, j'ai un agenda très chargé.
Ouais.
Donc des émissions en podcast, j'ai beaucoup qui sont proposées j'accepte quand je suis très 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 content de venir partager ce moment. Donc merci beaucoup pour ton écoute qui est très forte parce que j'étais une grosse pipelette. Mais voilà, je me sens rassasié. C'était la partie loisir de ma journée, c'était trop bien. Je me sens bien.
Merci infiniment Fabien pour ton temps. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.